Coucou la MIF, micro promo pour vous dire que je repars en tournée de blagues. Je suis en train d'écrire le nouveau spectacle. Je le jouerai en rodage de janvier à mars à Bruxelles, tous les jeudis au Petit Kings. Ensuite, tournée de rodage en France, Marseille, Grenoble, Aix-en-Provence, Reims, Chambéry, La Rochelle et plein d'autres. Puis direction Paris d'octobre à décembre, tous les mercredis et jeudis au Zèbre de Belleville. C'est une salle trop trop belle où il y a une tyrolienne pour arriver sur scène. Est-ce que c'est pour ça que j'ai voulu jouer là-bas ? Vous n'avez aucune preuve. Donc venez, franchement ça va être marrant. Toutes les dates sont sur mon site fannyruet.com. Il y a aussi les liens pour les tickets. Donc voilà, j'ai trop hâte. Des bisous.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
C'est aux gens de choisir. C'est eux qui décident. À toi de faire en sorte que t'aies le moins de regrets possible, être en accord avec ses blagues, bien travailler, sortir de scène et dire « Ok, j'ai tout donné, moi j'aime bien ce que j'ai raconté. » Puis t'as des gens qui vont adorer, d'autres qui vont pas aimer. Qu'est-ce que tu veux faire ? T'as rien à faire. Il fait 37 degrés au mois de novembre, il y a d'autres problèmes aussi, tu vois. Tu vois, il y a d'autres trucs, c'est pas grave. On sait que des blagues, hein. on est que des blagues une soirée. Faut vraiment se détendre le fion là-dessus. Hein.
J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Baptiste Le Caplin dans ce nouvel épisode enregistré en public au Point Éphémère à Paris. Je pense pas qu'il faille encore le présenter, mais au cas où vous avez raté un de ses 1000 projets, Baptiste Le Caplin, c'est notamment 15 ans de carrière, plein de galas à Montreux, des programmes courts, 3 spectacles, dont Origine, disponible sur MyCanal, et Voir les gens, qui est actuellement en tournée. Connaissant Baptiste, je m'attendais à un épisode un peu foufou, qui part dans tous les sens, un peu absurde et tout, et ben en fait, pas du tout, il est plutôt calme et très intense par moments. On a parlé de plein de choses, parfois légères, de l'addiction de Baptiste au sport, parce que de base il voulait être prof d'anglais et jouer au basket sur le côté, de son traumatisme à la séparation du groupe Oasis, de comment écrire de l'absurde, de son nouveau spectacle Voir les gens, qu'il a coécrit avec Flaubert du Floodcast. Et puis on aborde des sujets un peu plus durs, par exemple le fait qu'il raconte dans son nouveau show qu'il a trompé sa compagne, et il me raconte les réactions parfois un peu compliquées que ça a provoqué dans le public. De manière plus générale, je lui demande comment transformer un moment sincèrement humiliant en un sketch drôle. On discute aussi de son enfance compliquée et de comment il a transformé ça en positif et de comment un humoriste peut monter sur scène, être de bonne humeur et donner de l'énergie même s'il est au fond du trou. C'est un épisode que j'aime vraiment énormément. J'espère qu'il vous plaira. Bonsoir, bonjour.
Bonsoir, bonjour.
Bonjour, merci d'être là, merci d'être venu à Moult. C'est cool de laisser mourir votre semaine ici. Non, en vrai, merci beaucoup d'être là, merci d'être venu écouter un podcast qui sera disponible gratuitement dans un mois. C'est vraiment un excellent move en pleine crise. Bonjour Baptiste.
Bonjour Fanny.
Comment ça va ?
Ça va bien et toi ?
Ça va bien. Merci d'avoir suivi le dress code.
Ah bah de rien, mais t'as vu, on est un peu raccord, hein, c'est cool. Hein. On est un peu ghetto. On est vraiment les gars recalés des équipes de sport co.
C'est ça. Comment ça va, vous ? Pas mal ? Si, ça va. En même temps, public des gens qui doutent, c'est que des gens qui vont mal. Si vous êtes là, c'est pas un choix.
Oui, j'ai l'impression que t'as ramené une communauté de gens qui le dimanche font « Ah merde, avant il y avait des vidéos futures, maintenant il n'y a plus rien. J'ai pas mes codes Netflix. »
C'était ça, vous restez couché dans votre cercueil. As we do. Ouais, mais merci d'être là.
Non, mais... Avec plaisir, merci de m'avoir. J'aime beaucoup ce titre. J'aime beaucoup ce titre des gens qui doutent. Il y avait une chanson qu'avait repris Ben Mazoué. J'aime les gens qui doutent. Non, mais j'aime beaucoup ce titre. Le titre est évocateur, je trouve. Et on se croise beaucoup, mais on se connaît très peu
jamais.
En fait. Non, on se parle pas trop.
C'est ça. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on a pas mal joué sur des plateaux et tout. Et à chaque fois, pendant que nous, on chill en loge, et lui, il va courir.
Oui, j'ai ce truc très, très bizarre dans le métier. Ah, c'est le gars qui crée de l'endorphine.
Ouais.
Mais pour pas déprimer. Mais je crois que je le fais un peu pour ça. Non, mais oui, je sais. Oui, je suis très chiant avec ça. Je suis très dur à choper. Je regarde pas les autres humains y jouer. Je reste dans mon coin et je fais énormément de sport. Ouais. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, avant de te voir, j'ai fait 45 minutes de vélo d'appartement. C'est long, hein.
Ben, j'imagine.
Ouais, c'est un peu long. Mais ouais, mais sinon, si je fais pas mon sport, j'ai l'impression...
Alors déjà, tu dis si je fais pas mon sport.
Oui, c'est mon sport. Ça je me le suis trouver. Complètement ouais. approprié.
D'accord.
Non, si j'ai pas ma dépense énergétique de sport, qui est à savoir au moins une heure et demie...
Par
j'ai...
jour ?
Ouais, par jour, ouais. Ouais, Fanny... Fanny, tu pars à... À l'élite, là. À l'élite du mec qui crée de l'endorphine. Non, non, mais je fais ça depuis des années et des années. Et vraiment... Le sport est une drogue. Si je n'ai pas fait de sport, au bout de deux jours, j'ai l'impression que je vais crever.
Mais qu'est-ce que tu fuis ?
Mes doutes. Non, mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien. J'ai l'impression d'avoir fait un truc de ma journée. Vraiment important. C'est pour moi, c'est important de le faire.
Mais t'as deux enfants et une carrière, c'est pas suffisant ?
Si, ça fait des grosses journées. Hein. Mais ouais, mais je suis de plus en plus fatigué. Hein. Le temps passe et je suis très fatigué. Mais j'aime bien. Et c'est mes petites routines. J'ai un peu la vie d'un... En fait, j'ai une vie de quand on a vécu le confinement, en fait, les gens disent « Oh, putain, c'est chiant, faut avoir une routine. » Je fais « Merde, mais c'est ma vie depuis toujours. » Moi, j'avais pas l'impression d'avoir une vie complètement confinée. C'est juste que j'en ai vraiment besoin. Je pense que si je ne fais pas de sport, je peux mourir, vraiment. Vraiment. Ma meuf m'a dit « Le jour où tu te fais les genoux et que t'as 6 mois sans sport, je pense que je déménage. » Et j'ai même demandé à un ostéo de mon équipe de foot professionnel, c'est possible de faire du sport sans les genoux? Il m'a dit, ouais, il y a ça. Et j'ai repéré les appareils.
Genre de l'aviron et tout?
Non, tu fais du vélo, mais avec les mains. Et c'est un enfer. T'as les pédales, mais tu fais comme ça avec tes mains. Et je voyais des footeux faire ça. Je fais, mais ça va, Guillaume O'Haraud? Ça te parle pas, Guillaume O'Haraud? C'est un ancien joueur du PSG. Il était blessé, et je le voyais, il faisait ça. Et il me dit, putain, mec, j'ai envie de crever, j'en peux plus. Mais ça, tu peux faire de l'activité sans le bas. Comment il fait, Philippe Croizon?
Mais il croise rien.
Il peut même Allez. Pas faire ça, lui. Il croise rien, je lui ai en décalé, va bah, être drôle.
Je me suis dit, c'est bon, peut-être personne ne l'aurait entendu.
Bon, pardon, on va pas parler de sport, pardon. Mais oui,
non,
oui.
Mais si, en vrai.
Ça t'intéresse?
Attends, j'aime beaucoup le football. Mais.
C'est vrai, ça?
Non, j'adore le foot, mais.
Qui tu supportes?
Alors, en Belgique...
Les Violets.
L'Union Saint-Gilloise.
Ah, l'Union Saint-Gilloise, c'est très bon club. Hein.
Et, bah, excellent. Et en meuf, l'équipe anglaise et Manchester United.
Oh, chez les mecs?
Non, chez les meufs.
Chez les meufs?
Chez les mecs, je préfère City.
Ah, t'es chelou.
I'm special.
Ouais, t'es special.
Merci. Mais du coup, attends, tu dis t'as un ostéo de foot professionnel, mais ouais. Tu faisais pas du basket?
J'ai fait 13 ans de basket. Ouais, 13 ans de basket... En étant conscient que j'avais pas un niveau suffisant pour être professionnel.
Mais t'étais haut quand même.
Non, j'avais un bon niveau, ouais. J'avais pas le niveau du comte de Bouderbala, qui lui avait un très très bon niveau. Mais j'avais un niveau qui m'aurait permis d'avoir un boulot à côté, de gagner un peu d'argent. J'aurais gagné genre 500 balles par mois avec le basket, tu vois. Donc si j'avais été prof d'anglais, c'était ma vie que je voulais faire. Je voulais être prof d'anglais et jouer au basket. Et je me serais suicidé à 41 ans. Mais c'était calé, tout était calé en fait. En revanche, ce que j'adorais encore une fois, c'était me retrouver chez moi tout seul et faire des shoots sur mon panier de basket. Je mettais une planche comme ça, quand je tirais et que je marquais, le ballon revenait dans mes mains. Et j'ai baisé à 23 ans la première fois, ça t'étonne? Mais parce que j'adorais ça, j'adorais, j'ai dit putain, trop bien, je vais faire plein de shoots, putain, j'ai un bon geste et tout. J'étais trop content, des heures et des heures.
Ok.
Mais j'aime bien avoir une discipline à côté de ma vie de papa et de ma vie d'humoriste. J'aime bien avoir un autre truc à côté. Parce que je trouve que ça détend le slip sur la pression que tu peux avoir à droite et à gauche. Mm. C'est bien d'avoir un autre truc à côté.
Ok. Non, mais je...
C'est peut-être aussi comme ça, mais au moins j'ai pas de temps pour cogiter, parce que je cogite aussi beaucoup. Donc j'ai déjà ça en moins, tu vois.
Mais est-ce que c'est déjà pas le rôle des enfants de te faire ne pas avoir le temps de cogiter sur la vie ?
Non, mais oui, évidemment, parce que les enfants, c'est très fatigant, c'est un bonheur, c'est génial. Là, ce matin, j'ai fait des figurines en pâte à modeler. J'ai fait des boules de wasabi. Là, c'était bien fait, hein, j'ai fait en bouffer une. Mais tu fais de la pâte à modeler. J'ai joué avec mes filles. On a fait quoi? J'ai fait la poule. Parce que c'est la poule. Alors c'est très drôle la poule. Attention, Jean-Marc Morandini pourrait me le prendre, faut pas qu'il fasse gaffe. La poule, elle vient de voir, elle fait « La poule !» Je fais « Pout, pout !» Elle me dit « J'ai volé 4 œufs !»« Pout, pout !»« Pout, 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 pout !» Et je leur fais des guilis. Et donc elle vient de me voir, elle me dit qu'elles ont volé de plus en plus d'œufs.
Et il y a de plus en plus de guilis ?
Et il y a de plus en plus de guilis.
Et ça s'arrête,
ça prend 20
ça
minutes.
Ça s'arrête quand ?
Ça s'arrête quand les guilis, les guilis pour moi, c'est le meilleur... C'est l'activité qui traduit le mieux une relation de couple. C'est-à-dire qu'au début, t'adores les guilis. Parce que t'adores les guilis. Et à la fin, les guilis te cassent les couilles. Donc ça fait... arrête, merde ! Et vraiment, c'est ça. Et vraiment, à la fin, elles ont mal, quoi. Tu vois, mais je leur dis, pardon. Et puis, alors, je ne suis pas là pour protéger les prédateurs sexuels. Mais les filles disent... Ouais, mes filles, elles font, non, arrête. Donc c'est des noms qui veulent dire non. Tu leur fais pas. Tu leur fais pas les guilis. Non.
Donc, est-ce que tu dirais que le consentement en dessous de 10 ans, ce sera le titre.
Non mais le nom des enfants est trop mignon. Non mais t'essaies de faire marrer les filles. Mais tu vois, je le faisais. Alors, en plus, pendant le confinement, je faisais jeu là dans un trampoline. Ce qui est
très violent.
Ma belle-mère a vendu le trampoline. Elle a dit vraiment, tu vas tuer tes enfants. Non, mais c'est marrant de faire ça. C'est marrant de faire. Moi, j'ai jamais fait des guillis avec mon père. Et heureusement, parce que c'est. Mais j'aime bien. J'aime trop jouer avec les enfants. Mais c'est fatigant. Mais les enfants, c'est trop bien. Les enfants, je te parle en tant que humoriste, artiste. C'est comme une pommade qui enlève l'ego. C'est-à-dire que j'ai beaucoup moins d'ego qu'avant. Je m'en fous en fait. Très sincèrement, que ce soit un truc chamé dans ma carrière ou un truc pas bien, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'à 16h30, j'arrive avec des meringues pour ma fille. Parce que si elle me fait, bah, sont où mes meringues? Ah, excuse-moi, pardon, parce que j'avais un casting pour le prochain Clapiche. Ouais. Mais elles sont où mes meringues? Elles s'en foutent. Ma fille, vraiment, j'étais en plein Olympia, je cartonnais à l'Olympia. J'ai oublié le pain au chocolat une fois. Elle me fait, il est où le pain au chocolat? Elle dit, mais tu sais, parce que j'étais à l'Olympia hier, j'étais fatigué. Ouais. Donc là, j'ai rien, là. Bon. Je suis désolé.
Et avant de les avoir, elles sont la plus grande à laquelle
8 et 4.
8. Et du coup, avant, t'avais beaucoup d'ego.
J'en avais pas plus particulièrement que ça, mais tu te prends plus la tête sur des choses, sur pourquoi un tel il m'a dit ça, pourquoi il se passe ça, pourquoi lui il a eu ça et pas moi. C'est du temps en moins. C'est du temps en moins et c'est bien, c'est tant mieux. C'est tant mieux.
Et tu disais tantôt que t'avais un truc tout tracé à la base et que c'était ok, un peu de sport, prof d'anglais et tout. À quel moment ça...
Que l'humour est arrivé?
Ouais. Enfin, à quel moment tu t'es dit, en fait, peut-être que tout ce que j'avais prévu, tu sais quoi, Balek?
Balek. En fait, je pense que c'est... L'humour traîne, c'est un peu une relation, tu sais, c'est comme cette personne que tu côtoies au lycée, que t'as pas forcément remarqué, et puis en grandissant tu dis en fait j'aimerais trop sortir avec cette personne, elle est trop bien en fait, je suis complètement bon con, elle est géniale cette fille, ou il est génial ce mec. Et en fait l'humour, j'ai toujours adoré l'humour, mais j'avais le basket avant, j'avais prof d'anglais parce que mon prof d'espagnol était trop drôle, je me disais putain ça serait trop bien d'avoir une classe et d'être un prof cool, je voulais être Robin Williams dans le cercle des poètes disparus. Donc il y avait un peu le côté estrade qui était un peu sous-jacent, en disant gars, c'est pas vraiment ce que t'as envie de faire en fait. Mais comme j'avais pas de cours de théâtre, rien à portée de main dans le village où j'ai grandi, c'était pas un truc faisable dans ma tête. Le métier d'humoriste ou d'acteur, c'était inenvisageable. C'est juste des trucs qui se sont déverrouillés au fil du temps. Voir Pierre Palmade parler tout seul dans une télé, j'étais là, je dis, oh, putain, c'est fou, à qui il parle? Quoi, maman? Quoi? Que je? Et c'est bizarre, mais c'est marrant. Et c'est resté. Et pareil, comme le métier d'acteur. Je regardais plein de films, et un jour, je regarde Pédale douce avec mon père. Vraiment pas le meilleur film à regarder quand t'as 10 ans, mais. Et je vois Jacques Gamblin, et mon père dit, ah bah lui, il est de Granville. C'est à côté de chez nous. Ah, dit, bah lui, il est de Granville. Mais il est acteur, ouais. Ok. Donc c'est peut-être, tu vois, c'est des trucs qui se sont déverrouillés plus tard. Et c'est tard, à 17 ans. Je me suis dit, mais en fait, je veux faire de l'humour. Non, tard, mais Kev Adams, ça faisait un an qu'il jouait déjà, à 17 ans. Non, mais la vie va beaucoup plus vite que ça, Fanny. T'es dépassée, ma pauvre.
Je sais, je sais.
Mais non, mais c'est parce que j'ai joué des sketchs de gens connus en colo et que les gens m'ont dit, ah, c'est un peu marrant ce que tu fais, tu le fais bien.
T'étais animateur pour enfants dans une
ouais,
colo.
Ouais, ouais, animateur pour enfants en colo ouais, et pré-ado. Et je jouais des sketchs de Franck Dubosc, tu vois. Et mes potes me disaient, ah, tu le fais bien. Je dis, ah bon, bah, ok. C'était mes premiers rapports à la scène, mais c'était un truc complètement surréaliste.
Donc c'est vraiment impossible que tu sois copie comique.
Ah ouais, non, mais ça, c'est pas possible. Non, mais alors déjà, trouve-moi un temps dans la journée où je peux faire en plus du montage. Mmh. Franchement, c'est impossible. Et ensuite, le truc de copie comique, Kian, il a dit un truc très vrai. Il dit, mais tout le monde pense que c'est toi. Alors que dans la première vidéo, il y a quand même Yacine Bellous.
Ouais.
Ça veut dire que moi, pour brouiller les pistes, j'aurais balancé mon pote avec qui j'ai tourné.
C'est intelligent.
Ah ouais, c'est un truc de fils de pute en premier d'ailleurs.
L'un n'empêche pas l'autre.
Non, mais c'est pas moi, j'ai rien à foutre. J'ai autre chose à branler que de faire des montages. Faut regarder tout Michel Leeb. Faut regarder Titoff, j'adore Titoff, hein, mais bon, sketch du Pépito, il est marrant, après le reste, bon, voilà. Faut regarder Roland McDan. Gad Elmaleh, après Papa est en haut, j'ai un peu lâché l'affaire, hein, comme pas mal de gens.
Ouais. Tu te forces et ça se voit. Et ça fait mal.
Ah non, c'est une très très bonne blague. Maintenant, je me force jamais à rigoler, jamais de la vie. Tu veux que je fasse mourir forcé ?
Vas-y.
Tu rigoles sans le son. Je vais pas balancer, mais Pierre Ninet, il rigole comme ça.
Dans la vraie vie ?
Ouais, c'est très énervant. Ah. Fait. C'est très chiant. Arrête, on travaille dur pour avoir un rire avec du son et qu'un mec te fasse. C'est chiant, non ?
Ouais, j'avoue.
Mais peut-être qu'il rigole vraiment, hein, mais il rigole comme ça.
T'as déjà fait rire Pierre Ninet ?
Je pense pas, non.
Je suis désolée.
Je pense pas. Non. Je pense pas. Il est fort, Pierre Ninet.
Il est très, très fort. Il sera dans la prochaine saison de LOL qui ressort.
Ouais. Toi, c'est prouve qu'il est très, très fort.
Oui. Et toi... c'était ironique. Ah, j'ai senti l'ironie.
Je te dis ça, je vais finir par y aller. Je le sens, voilà. Je le sens gros comme une maison parce que je vois toutes les notifications Instagram. Ah, prenez-le. Et Amazon, ils vont m'appeler, ils vont me dire bon, ça serait con de pas y aller. Enfin, les pauvres, faut voir qui y a.
En vrai, autant la première saison avait l'air horrible, autant la deuxième, ça allait.
Deuxième, c'était cool, hein. Ouais, mais c'est très drôle. Mais attends, c'est un truc australien là-bas. T'as regardé la version australienne ?
Pas du tout.
Mais ils se bourrent la gueule au whisky, mais ils sont déchirés, les mecs. C'est-à-dire que t'aurais genre Coé, Jean-Luc Reichmann, mais déchirés, genre.
Mais c'est pas le même jeu alors.
C'est un autre jeu. Les Australiens, ils sont vraiment vénères. Ils sont bourrés au whisky.
Mais c'est genre les recettes pompettes.
C'est les recettes pompettes dans le Kiri sort, ce qui est complètement fou. Hein. Non, les Australiens.
C'est Kiri pompette. Moi, j'adore la télé.
C'est un truc australien. Non, mais je sais pas. Toi, t'aurais envie d'y aller ?
Moi, je suis très bon public.
Moi, c'est impossible que je gagne. Alors, si j'y vais, c'est impossible que je gagne. Je vais me faire surprendre par une drôlerie. Et je vais me faire niquer.
Ouais, bah pareil. Je sais pas ne pas rire. En plus,
c'est intriguant comme truc. Mais je sais, on m'a décrit l'ambiance. Des copains y ont été. Ils m'ont dit c'est quand même une ambiance bizarre, quoi. C'est tout le monde se regarde, genre.
Ouais. C'est genre, ouais, la maison de la suspicion.
Ouais, voilà, c'est à couteau tiré, mais... C'est Toto, il va aux toilettes et il chie des cartouches. Tu vois, c'est cette ambiance-là. Faut arriver avec des meilleurs blagues que ça. Hein. Mais...
Ça peut créer la surprise.
C'est impossible de pas rigoler. Bon, bref, ça dépend avec qui tu es, mais il y a des castings très drôles. Hein.
C'est pas ton casting idéal.
Là-bas ?
Ouais.
Oh là là. Non mais là j'ai vu qu'il y avait François Damiens par exemple. François Damiens, putain, j'aurais bien voulu y aller avec lui. Ah, François Damiens, il me fascine.
Mais il a ce côté, il a l'air tellement... il fait peur, je trouve.
Il fait peur, mais moi c'est une de mes plus grandes fiertés dans ce métier. Je me souviens, j'allais voir Blanche Gardin à la Nouvelle Scène.
Bravo.
Merci. Et je m'assois et je vois il est là. Et je fais, ah, bonjour François. Baptiste, enchanté, il fait, je te connais, t'as une bonne tête. Bah, merci. Il me dit, je te connais, t'as une bonne tête. Je vois, bah, non, c'est sympa, ça. Et on s'est posé après, il buvait des coups. Alors, il m'a dit, tu bois pas de bière? Tu bois jamais.
Tu fais très mal l'accent.
Non, je le fais très mal. Il a halluciné sur le fait que je bois jamais d'alcool. Mais après, on a passé une demi-heure à Paris, c'était trop bien. Mais ça m'a fait trop plaisir que François Damiens aime bien ma bonne tête. De toute façon, quand t'es aimé par les Belges, je dis pas ça parce que t'es là, mais quand des Belges t'aiment bien, c'est bon signe, généralement.
Ouais, mais c'est facile aussi, hein.
Non, c'est pas facile. Bah, Thibaut Courtois, il nous aime pas. Ah, y a des fouteux, quand même. Ça...
Ouais.
Non, non, c'est pas facile. Non, non, c'est cool. Y a des humoristes de qualité en Belgique, putain, pour un si petit pays. Non, mais vraiment, hein.
Si, y a rien à faire.
Ben ouais, mais s'il y a rien à faire, quand t'as rien à faire, tu peux pencher vers l'alcool. Bon, il y a beaucoup d'alcooliques aussi, hein, mais...
Pourquoi choisir ?
Ben oui.
Mais toi, tu bois jamais.
Jamais, jamais. Pourquoi ?
Non, je sais.
Pourquoi ? Ah, t'as bossé ?
Mais évidemment que j'ai bossé.
Oh là là, putain,
je
mais t'as,
genre,
t'as
pas,
regardé
là,
genre
mais...
La parenthèse inattendue avec Frédéric Lopez ? Comment tu sais que je bois pas ? Pourquoi je bois pas ?
Ben, c'est parce que ton daron, il buvait
pas. Tu m'as parlé de ça ! Oui, non, mais si, c'est ça. J'avais un papa alcoolique, ouais. J'avais un papa alcoolique, et donc, du coup, j'ai arrêté de... Enfin, je lui ai dit... il a arrêté de boire quand j'avais 12 ans, et je lui ai dit, si t'arrêtes de boire, je boirai jamais. Et donc, j'ai jamais bu. Et les joies de ce métier font que, quand même, poulpe, au sommet des recettes pompettes, il me dit, bon, j'ai une proposition à te faire... J'ai dit d'un poulpe, tu vas quand même pas me proposer de faire la recette pompette. Il fait, gars, si tu prends ta seule cuite de ta vie avec moi, je t'en remercierai jamais assez. J'étais vraiment un enfoiré. C'est-à-dire que c'est une promesse, un pacte que j'ai passé avec mon papa. Et lui, il voulait briser ce pacte juste pour faire du buzz. Il m'a dit, mais mec, mais si tu bois, ça va être extraordinaire. Et il me l'a vendu vraiment. Mais j'aurais été dans un état. Mais j'aurais vomi pendant 5 ans et demi, je pense. Mais je n'ai jamais bu. Mais il a quand même voulu me faire boire, cet enfoiré.
J'avoue, c'est fourbe.
C'est un truc de fourbe, quand même.
C'est fourbe, ouais. Mais ça sort en décembre. c'est quoi ton rapport au doute, vu que c'est le podcast de base qui parle de ça ?
Bah, il est permanent, hein. Il est permanent, le doute. Et là, il traîne.
Tu gardes ta voix, hein.
Non, non, mais il est là. Non, mais il est tout le temps là. Tu vois, par exemple, hier soir, j'ai joué sur scène à la Renaissance. C'était génial. Mais je suis sorti en me disant, ah ouais, putain, de tel passage, non, je pense pas. Donc, t'es jamais dans le côté savoureux du truc. Mm. T'as toujours un problème à régler ailleurs. Et c'est vrai que ce métier, il est très dur. C'est pour ça que moi, je peux pas me regarder en vidéo. Je peux pas me regarder en spectacle, en capta ou les passages de Montreux ou quoi. Parce que j'ai appris à regarder que les défauts. Mm. Quand je me regardais en vidéo avec mon metteur en scène, on disait, qu'est-ce qui va pas ? Et je ne vois que ça. Et quand je sors de scène, je demande, ça a été ? Il me dit oui ou non. Et tout de suite, j'enchaîne sur, qu'est-ce qui a pas été ? Je veux savoir ce qui va pas. Et il m'a dit, ça va pas. Parce que oui, c'est super, c'est génial, t'as été très drôle, t'es content, ça flatte ton ego, mais ça fait pas avancer le truc. Qu'est-ce qui a pas été ? Ça a pas été. Ok, bah, le lendemain, il faut que je corrige ça et ça.
Mais du coup, tu trouves où le fun ?
Ben c'est bizarre, mais c'est dans les petites corrections quotidiennes. Quand tu sais que t'as amélioré ça ou ça, tu vois par exemple Flaubert, j'ai écrit un nouveau spectacle avec Flaubert, et y a une blague à un moment donné, il me dit change le prénom. Parce que je raconte que j'ai pas toujours été un bon mari, et je dis en même temps c'est plus facile d'être un bon père parce que tu peux pas tromper tes enfants. Et là, je joue ma fille qui fait « Papa, c'est qui cette Stéphanie ?» Et je dis « C'est une fille que j'ai rencontrée à sortir un jouet-club, je lui ai appris à faire ses lacets. » Et Flaubert m'a dit, il me dit « Mec, dis Titouan à la place de Stéphanie. » Et je dis « Papa, c'est qui ce Titouan ?» Et là, j'ai des rires tous les soirs sur Titouan. Je dis « Putain, mais c'est génial !» Donc le fun, il est là aussi. Il est là en disant « J'ai changé un mot et c'est plus drôle que les soirs d'avant.
Mm. »
Mais c'est un métier de psycho, hein. On n'est pas là pour...
on n'est pas là pour rigoler.
Bah non, en vrai, on n'est pas là pour rigoler. C'est pour ça que les humoristes qui ont le boulard, je comprends pas. Parce que tu peux pas te vanter de dire « Ah, tain, j'ai fait marrer 500 personnes, les gens ils se sont levés, c'était la folie. » Mais on travaille comme des porcs pour faire croire aux gens que c'est pas travaillé. Donc quand les gens disent « Putain, c'est génial, on dirait que c'est pas travaillé, on dirait que vous arrivez comme ça. » Tu peux pas te flatter de ça, puisque tu as travaillé pour ça.
Mais si, justement.
Non, faut pas se la péter pour ça. C'est pas possible. Tu peux pas te la péter en étant drôle. Non. Parce que t'as beaucoup travaillé, t'as beaucoup douté, tu doutes encore beaucoup.
Mais justement, et t'es quand même allé au bout.
Oui, mais si tu te la pètes, après, tu vas pas corriger les
deux. Non, mais pas se la péter, mais être fier.
Tu peux être fier, mais c'est ce que je disais. Alors après, c'est un truc de sadomaso aussi, mais J'ai reçu un message de quelqu'un il y a quelques jours qui m'a dit « J'ai vu vos 3 spectacles et à chaque fois, j'ai passé des super soirées et tout. » Et le message était adorable. Et le mec me suit depuis 14 ans. Mais dans la vie de ce gars-là, je ne suis que 3 soirées. Non mais si tu veux vraiment mettre les choses à plat, je suis que 3 soirées. Je suis un mercredi, un jeudi et un samedi. Hein. Mmh. Donc pourquoi moi, j'irais me la péter alors que j'ai rempli 3 soirées à un gars qui était très content. Hein. Mais je suis 3 soirées. Je suis qui pour me la jouer? Je suis pas Barack Obama, j'ai pas découvert un vaccin. On essaie de faire passer des bonnes soirées aux gens. Pour moi, c'est ça. On peut pas se la péter de ça. C'est pas possible. Notre métier, c'est de travailler dur pour être le plus drôle et le plus sympathique possible. Pourquoi, à l'arrivée, quand t'arrives à faire ça, tu dois pas être sympathique et accessible? Je suis un génie. T'es pas un génie. On n'est pas des génies. On est des torturés de la life. C'est pour ça qu'on fait ça. Je comprendrai jamais qu'un humoriste se la pète. Une rockstar se la pète. Une rockstar, allez, les frères Liam Gallagher, je suis absolument fan
T'as toujours pas digéré.
Non, la séparation d'Oasis, moi, c'est. Non, mais j'ai un trauma de ça, en plus. Ma générosité m'a perdu. J'étais en tournée, et j'avais 2 places pour aller voir Oasis. Et je dis à mon manager, vas-y, je suis fatigué, vas-y, avec qui tu veux. Il va les voir. Et je dis, moi, je m'en fous, je vais les voir à Rock en Seine.
Ellipse. Donc, tu les as vus?
Se séparer. J'étais là. Et ils vont pas venir. Et le gars était là. Le groupe n'existe plus. Cancel show. Je sais pas, c'est-à-dire. J'étais avec un fan qui était bourré au dernier degré. Il pleurait. Je dis, mais gars, tu pleures, mais toi, tu les as déjà vus. Moi, t'as fait la tournée, il avait tous les tatouages. Je les ai vus avec Nairnberg, je les ai vus là. Je suis enculé, moi, je les ai pas vus. Je les ai jamais vus ensemble. Jamais. C'est un enfer. Donc, je vis dans la nostalgie de ce concert qui n'a jamais eu lieu. Petite pensée quand même aux gens de Rock en Seine, hein, qui l'année d'avant avaient Amy Winehouse en clôture. Ils se disent, Amy Winehouse, c'est du passé. Allez, maintenant, on a Oasis, c'est top. Ah mon Dieu! Ah le karma! 2 années de suite. Et donc, j'ai jamais vu Oasis. Mais Liam Gallagher, il arrive sur scène. Oh, t'as envie qu'il se la joue un peu. Mais lui, il peut quoi. T'as tout le monde qui chante ses chansons, enfin les chansons de son frère. Mais il a une attitude, c'est une rockstar. Les rockstars peuvent. Ça fait partie du folklore. Un humoriste, il peut pas se la péter.
C'est marrant que tu fasses une distinction à ce point.
Ouais, pour moi, c'est. C'est pour ça que je fantasme à mort les chanteurs. Parce que je me dis, mon Dieu, ça va être incroyable.
T'aurais aimé faire ça?
Non, mais la sensation, juste de vivre la sensation d'arriver, de jouer les premiers accords de Wonderwall et que tout le monde fasse... Ah ok, vous êtes prêts? Mais bon, je trouve ça fou. Il y a un truc fou. Il y a un truc absolument dingue. Et un concert à Londres, en plus, l'ambiance est folle. J'ai vu un gars. J'ai vu un gars à Londres. Il était assis à côté de moi. Il chantait avant le concert. Et il y a Gallagher qui arrive. Il fait une chanson. Il fait, bon, je vais chercher des bières. Il se lève. Il y avait 2 meufs. Et, vous voulez des bières? Vous voulez des bières? Les meufs font, ouais. Moi, je ramène des bières. Il part. Il est revenu à l'avant-dernière chanson. Et il fait, ouais, les petites binouzes. C'est fini déjà. Et il était content. Mais qui fait un spectateur lambda sur Beer et Duc, il vient et dit, oui, alors écoutez, je suis parti au début du spectacle pour aller me chercher un breuvage. C'était mal organisé, c'était scandaleux. Lui, il était hyper content. Il a chanté, il a dû chasamer les dernières chansons, il était trop content. Mais j'ai vu ça, j'ai fait, mais mec, t'as vu le gars, il a pas vu les chansons. Il était rincé au dernier degré. Et il a kiffé, il a payé. Il a dû droguer les meufs, d'ailleurs, très certainement. Je pense que c'est plus ça. Je pense qu'il a eu la bière très vite. Il dit, merde, j'ai oublié la substance. Ah, merde. Je suis fasciné par les frères Gallagher, j'adore. Je suis trop fan des frères Gallagher. T'as vu le doc sur Oasis?
Non.
Et pareil, sur le côté écriture, sur comment créer un chef-d'œuvre, à un moment donné, ils sont en studio. Et à la pause-déj, on a commandé chinois, ils vont manger chinois. Noël, il fait, non, c'est bon, j'ai pas faim. Ils reviennent du déj, ils font, c'est bon, j'ai écrit Champagne Supernova. Fais voir. Et il joue la chanson, il fait « Ah, bah, ok. Oh, une pause déj. » Pas mal, Jean-Jean, quand même. Hein.
Comment t'écris de l'absurde? J'avais posé la même question à Yacine Bellous.
Oh là là.
Il a pas répondu.
Ah, bah, non, il peut pas.
Mais ouais, mais comment c'est méga compliqué comme question parce que c'est que des enchaînements qui se font dans le cerveau et là du coup je te demande d'oraliser comment ça se passe, mais genre comment tu peux arriver à je sais plus qui c'est Sylvie Vartan ou quoi qui fume une clope et qui vient du futur et qui je sais pas quoi.
Ah, Fanny Ardant.
Enfin, j'ai dit quoi?
Sylvie Vartan. Mais t'as vu le spectacle?
Mais évidemment que j'ai vu le spectacle.
Tu l'as vu où?
Il y a une semaine.
Ah bon?
Mais oui.
Ah ouais. Ah oui, toi, t'as vraiment bien bossé.
Mais
c'est extraordinaire ce que tu fais.
Écoute.
Comment j'écris ça? Celui-ci est le plus écrit parce que je l'ai écrit avec un monsieur génial qui s'appelle Florent Bernard, qui on a écrit pitch ensemble. Et à la fin de pitch, il m'a fait un truc très mignon. Il m'a dit, bah, on s'entend bien. Je fais, bah ouais. Ce serait dommage de rester
là. De pas
se
sucer. Non, ouais.
Et donc, je dis, bah ouais, ouais, c'est cool. Il dit, bah, j'aimerais bien écrire des blagues avec toi sur le spectacle. Je dis, bah, vas-y. Et moi, j'avais déjà écrit 40 minutes. J'avais joué un bout de derrière un micro, d'ailleurs. Et il m'a dit, on peut structurer le spectacle. Je dis, oh, l'architecte, appelé Valérie Damido. On a un décorateur de vannes. Alors, il me dit, non, mais il me dit, regarde, comment il s'appelle?
John Mulaney.
Ouais. Ah, tu savais que j'avais dit ça?
Bah oui.
Putain, mais c'est génial. Et il me dit, regarde le spectacle de John Mulaney. Et je fais, ouais. Et puis, je sens que c'est un auteur. Je sens que Flaubert, oh, c'est un auteur. Enfin, bon, bref, j'ai mimé le geste qui se branle. Parce qu'il écrit au SNL, il est fan du gars. Donc, je dis, oui, c'est drôle, mais je sens trop la patte, je suis un auteur. Il me dit, mais regarde comment c'est structuré.
Et en quoi c'est un problème?
Mais non, parce que moi j'aime bien quand ça performe, ou j'aime bien je vois qu'il écrit bien, mais je trouve qu'il incarne pas bien.
Ah oui, oui.
Je trouve qu'il y a un truc, Nell Brennan incarne moins bien, mais Nell Brennan, Three Mics, ouais. C'était incroyable. Je trouve, oh là là, putain, ça.
C'est dispo sur Netflix, c'est incroyable.
Three Mics de Nell Brennan, qui a co-écrit le Dave Chappelle Show et qui écrit pour Dave Chappelle, notamment. C'est là, le truc incroyable. Mais John Mulaney, je te vois, ouais, bon. Et j'ai regardé la structure du spectacle, qui m'a dit au début, on fait des blagues, on fait encore un peu de blagues, on fait de l'absurde, et après on raconte ton truc que t'as envie de raconter à la fin. Et en fait, je dis, mais mec, moi je fais pas ça. Moi d'habitude, je prends une blague
qui me fait. Et puis elle dure 12 minutes.
Voilà, et je l'étire avec de l'absurde. Mais ça, pour étirer de l'absurde, c'est pas compliqué, hein. Il faut jouer, hein. Faut jouer sur scène, faire des impros, voir jusqu'où ça va et se planter. École Eddie Izzard. Mm. Eddie Izzard faisait ça, il faisait des impros sur scène. Antoine Decaune, il m'a raconté, il l'a vu jouer dans des clubs à Londres. Et il montait sur scène, il disait, bon, vous voulez que je parle de quoi? Des loups. Ok, des loups. J'ai été élevé par des loups. Puis après, il enchaînait un peu, il savait pas où il allait. Mais de fil en aiguille, il créait des trucs. Et moi, j'étais fasciné par ça, c'était ma façon d'écrire. Flaubert, lui, il a changé ça. Mais de temps en temps, le chasser le naturel, il revient au galop. Il y a des trucs qui me font marrer, parce que je me dis, ah, là, ça pourrait partir en couille. Quand je fais parler Fanny Ardant... Flaubert, je lui ai fait dans son salon, il m'a dit, bah ouais, c'est rigolo, tu peux essayer de le faire. Mais il y a des trucs, c'est impossible de trouver à l'écrit. Mais l'absurde, c'est un truc en toi, c'est un peu moi dans la salle qui me dit, ah, j'aimerais bien, si j'étais dans la salle, j'aimerais bien devoir faire ça. Mm. C'est très méta branlette, hein. Mais des fois, je me dis, ah, j'aimerais bien, ah ouais, là, ça pourrait être marrant. Tu vois, le truc, par exemple, dans le premier spectacle, je faisais un lanceur de marteau. Et quand je jetais le marteau, je finissais le sketch. Et à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai eu l'image de sa cartoon. Je dis, mais attends, si j'étais dans un cartoon et que je jette le marteau, là, je casse un mur. Donc, j'ai cassé le mur et derrière, j'ai fait apparaître un personnage de mon spectacle. C'est en faisant. Tu peux pas prévoir de l'absurde. Tu peux pas dire, à ce moment-là, il va se passer ça, ça, ça. Tu peux pas scénariser ça. Et puis, c'est aussi de trouver sur l'instant avec le public. Le public, quand il y a un temps comme ça, sur scène, ça c'est pas bon ça. Mmh. Donc faut vite trouver un truc qui fait que.
Il y a un peu un réflexe de survie. Il faut que je dise un truc.
Un réflexe de survie qu'il faut transformer en truc fun. Comment rendre le truc fun? Et bah, tu trouves et puis tu le trouves sur scène au fur et à mesure.
Le truc dont. Donc toi, tu savais que le truc dont tu voulais parler, c'était la fin du spectacle?
Alors ça, c'est parce que j'avais fait le podcast avec Seb Melia de 4 comiques dans le vent et contresens. Seb Melia est un excellent humoriste et un très très bon animateur de podcast parce qu'il arrive toujours à avoir ce qu'il veut. Et il me dit, parle-moi d'un truc qui t'est arrivé vraiment où t'as eu la honte. Je dis, non mais gars, si je parle de ça, c'est horrible. Il me dit, c'est quoi? Je dis, bah, j'avais trompé ma meuf. Et elle m'a dit, ma meuf, quand elle l'a su, d'appeler la nana devant elle et de rompre avec elle. Il me dit, mec, c'est extraordinaire, faut que tu racontes ça. Je fais, non, j'ai jamais de la vie, je raconte ça. Et ça a duré 1h15 au téléphone, hein. Et Sally, il me dit, mais vas-y.
Une heure et quart.
Il me dit, mais vas-y, raconte. Je dis, bah, parce que je vais contextualiser le truc. Je lui dis, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Il me dit, mais mec, tu vas le raconter sur scène, ça. Et bah, on est au République, il y a 500 personnes. Et bah, on fait ce qu'on fait là, hein. Tu racontes un truc horrible. Et puis, bah, quand il y avait des blancs, je rajoutais des trucs qui m'étaient arrivés. Les gens trouvaient ça marrant. Et c'est tous les messages que j'ai reçus derrière des humoristes du métier. Panayotis, Thomas Wiesel, Farid, Jason Broker, Skian, qui m'ont dit, mec, faut que ce soit dans ton spectacle, ça. J'ai dit, bon, bah, on va tenter. Donc, j'ai retravaillé le truc. Je l'ai pas dit à ma meuf. Et j'ai joué aux Kings. Et mon manager m'a dit, ce serait peut-être bien quand même battre qu'elle le voit avant que tu joues, quand même. Et je fais, ouais, t'as raison, je pense que ça serait pas mal. Et donc, elle est venue aux Kings. Je dis, viens, on se fait un week-end à Bruxelles, mais t'es trop sympa, mais t'es trop mignon qu'on fasse des week-ends comme ça. Ouais. Alors, avant, faut que tu vois un truc. Et donc, mon manager, je dis, tu peux gérer. Il m'a dit, ouais, t'inquiète. Et donc, il l'assoit en salle. Il dit, bon, pour ce spectacle, je te préviens, juste, il parle un peu de toi dans le spectacle, hein. Mais genre, combien de temps? 20 minutes. Allez, bon spectacle! Et il m'a dit que ça, elle fait quoi? Et en fait, je voulais pas la préparer avant. Je voulais pas lui dire, je parle de cet épisode-là. Je voulais pas qu'elle cogite avant. Je voulais qu'elle le reçoive comme les spectateurs le reçoivent. En sachant que elle est pas dans la même position qu'eux. Mais je voulais qu'elle ait le ressenti de la salle au moment où ça arrive. Elle a vu que dans la salle, c'était bienveillant. Parce qu'il y a eu des retours chouettes dans les critiques, dans la presse. Tu vois, il y a des journalistes femmes, notamment, qui ont dit, on a vu le message, que c'était un message, entre guillemets, un peu d'amour que vous disiez à votre compagne et tout. Et je lui ai dit ça, un petit oui, enfin bon, quand même un peu la teon. Ben oui, mais c'est de vivre avec un comique, faut rigoler de nos travers. Bah. Toi, ça t'a choqué?
Mais j'étais assez surprise. En fait, c'était la première fois, j'ai l'impression, dans le stand-up, en tout cas en français, que je voyais une sorte de... Parce que tu vois, en stand-up, c'est toujours genre la posture du loser et tout, mais on rigole de ce qu'on a fait en mode « Oh putain, je suis con, hein !» Et toi, c'était pas ça. C'était genre « J'ai merdé !» Sans chercher à se défiler de ça, tu vois. C'était faire des blagues sur comment ça s'est passé après, mais en aucun cas, tu minimises le fait que t'as merdé.
Ah bah non, c'est important.
Ben oui, mais j'avais jamais vu ça en stand-up en français.
Bon, calme-toi, il y en a non, peut-être pas en France, mais...
Ben voilà.
C'est vrai, je suis le premier.
Et ouais.
Putain, je suis Christophe Colomb. Là. Non, mais c'était... Alors, ça, c'est... Pour le coup, Flaubert m'a vachement aiguillé là-dessus. Il m'a dit, il faut que tu dises que c'est pas bien. Il faut bien... Il m'a bien fait placer les mots à plein d'endroits que moi, je voulais dire, mais je voulais tellement le raconter de comment ça s'était passé, parce que c'était un vrai trauma. Hein. C'était horrible. Hein. C'était vraiment... C'était un fiasco total, hein, ce que j'ai vécu. Hein. Mais bon, je l'ai cherché. Mais bon, c'était bien humiliant. Hein. C'était parce que ça s'est vraiment passé comme ça. Hein. Ça s'est vraiment... Et le pire, c'est que l'endroit où j'ai été... parce que ma meuf m'a dit, je veux bien te parler, parce qu'elle a su que je l'avais trompé. Donc elle m'a dit, on se voit, on en parle. Mon manager organise le rendez-vous. Et il me dit, le rendez-vous, c'est... parce qu'elle voulait plus me parler. Donc c'était lui qui faisait le lien, tu vois. Et il me dit, bon, c'est bon, je vous ai organisé un rendez-vous. C'est à l'entrepôt dans le 14e. Je dis, mais t'es complètement con, quoi. Il me dit, pourquoi? Je dis, mais c'est là-bas que j'ai démarré mes premiers plateaux. Donc j'arrive à l'entrepôt, les serveurs font, ah, là, la vedette. Je suis incognito, les gars. Donc c'est les serveurs qui étaient, mais mec, t'es au Bataclan, c'est génial, c'est complet, putain, mais je le savais, t'es un bon, toi. Koh-Lanta, c'était bon, c'était pas terrible, mais t'as bien bossé depuis et tout. Et donc j'ai ouais, je viens, il y a quelqu'un qui m'attend. Ah oui, il y a une dame, elle fait un peu la gueule. Ouais. Donc dans, l'ambiance était catastrophique. Donc j'ai voulu retranscrire ça, mais le j'ai oublié ce que je voulais dire. Je suis copie-comique, je l'ai dit, ça?
Ouais.
Ok. Mais le contexte était horrible, donc j'avais envie de le retranscrire tel quel. Mais la posture de base, on était d'accord avec Flaubert, c'est de dire c'est pas bien. Mais j'ai eu des réactions horribles. Putain, il y a eu des ça suscite des trucs pas cool. Hein.
Ah bah oui.
Parce que alors bon, je fais quand même 20 minutes sur le fait que j'ai été infidèle et que je me fais gauler et que je me fais humilier. Donc j'ai joué ce spectacle. Je joue la deuxième du spectacle. Il y a un jeune couple qui va me voir. Ah, bravo, une petite meuf toute mignonne, un mec, des lunettes, enfin, futur expert comptable de province, tout gentil comme ça. Et trop mignon. Oh, on vous suit depuis vos débuts, c'est génial. Merci, c'est gentil. Ah non, c'est cool. Et puis votre spectacle, ben il y a des moments dans ce spectacle qui résonnent en nos vies, hein? Yes. Yes. Et le mec il baisse la tête. On fait une photo et en faisant la photo, le mec il me fait, ouais, je suis désolé. Je fais, bah c'est pas grave. Et alors le pire que j'ai eu, c'est pas ça. Hein. Le pire que j'ai eu, c'est je suis à Bordeaux. Au premier rang, salle Fémina, il y a 1000 personnes, c'est une des meilleures salles de France, le Fémina. Et donc, je joue à Bordeaux et je démarre ce sketch. Et je dis, voilà, j'ai eu une maîtresse. Et à ce moment-là, au premier rang, il y a un mec, il se lève, et je vois une main féminine faire le retenir, et il fait... Et il fait comme ça. Il va dans le fond de la salle, et il se met bras croisés contre le mur, comme ça. Et donc, tout le sketch, qui dure 20 minutes, hein, j'ai un siège vide et j'ai une meuf qui fait ah, qui regarde vers le fond. Et à la fin, le sketch se termine. Il y a standing ovation et lui, il revient s'asseoir parce que le sketch sur l'infidélité est terminé. Il s'assoit et la meuf pose la main sur sa cuisse et il lui pousse la main comme ça. Tout le sketch, je dis, oh, merde. J'ai pas eu la...
Et comment tu réagis, toi, à ça?
Bah, je joue, hein, je suis un acteur, hein, mais je fais genre, oh, je vois pas ce qui se passe.
Oui, mais humainement, après, qu'est-ce que
bah
tu...
Après, je dis oui, c'est, après, j'y pense, je me dis, c'est comme, bah, pareil, Flaubert, il me dit, putain, je trouve qu'on a pas beaucoup de standing ovation. Je dis oui, mais il y a beaucoup de couples dont l'infidélité est un sujet, qui ont pas envie de, ça touche une personne sur deux, t'as pas l'autre qui va faire, ah! Ah! Tous des enculés! Chérie, rassieds-toi. Et donc oui, j'ai dit oui, on y a pensé après, on dit oui, merde, c'est peut-être pas la meilleure, c'est pas la fin qui a envie de dire, c'est coolos, quoi. Mais bon, c'est pas grave, je suis très fier de cette fin. Ce que j'adore dans cette fin, le plaisir que j'ai, c'est les silences que j'ai quand je raconte les... Il y a des moments, il y a des silences qui sont...
C'est que t'as pas l'habitude, toi.
Non, si. Non, si, je peux avoir des silences. Mais dans le storytelling, j'étais fasciné des gens qui arrivent à faire du storytelling, ça racontait une histoire drôle. Seb Melia, je sais pas pour le citer ou le flatter, mais Seb, j'adore sa façon de raconter des sketchs où il raconte des anecdotes ou des trucs et je trouvais qu'il racontait trop bien. Et mon sketch culte en storytelling, c'est Jim Jefferies. Tu as regardé
J'ai
Jim Jefferies?
J'ai vu il y a longtemps deux spectacles.
Jim Jefferies, il raconte un jour qu'il a été, c'est pour moi le meilleur sketch du monde. Dès que je suis en soirée, je le monte ce sketch. C'est un humoriste australien.
Je le joue.
Non. Ben non, il le fait trop bien. Il le fait trop bien. Mais c'est vraiment le sketch. Je l'ai regardé. J'étais, oh, non, c'est pas vrai. Mais je l'ai regardé 10 fois de suite. Je suis, oh, mais c'est incroyable. En fait, il raconte un truc fou. Il dit, je vais vous raconter une histoire. Il dit, il y a environ 2 ans, on m'a contacté pour jouer dans une soirée privée pour une énorme star américaine. On m'a fait signer un contrat pour ne pas dire qui c'était et combien j'avais été payé. Comme ça fait plusieurs mois que je raconte l'histoire et qu'il m'est rien arrivé, je vais vous dire qui c'est. Le truc est génial. Il dit, ouais, c'est Maria Carré. Et donc, elle raconte ça. Tu fais, what? Et en fait, il y a l'assistante de Maria Carré qui l'a appelé, qui a dit, Maria Carré vous adore. Elle voudrait que vous veniez jouer pour l'anniversaire de son mari. Et donc, il dit, bah, non, jamais de la vie, je fais ça.
Pourquoi?
Bah, il dit, parce que je vais pas jouer comme ça. Donc, on lui dit, on lui donne un prix, il dit non. On lui donne un autre prix, il dit non. Et puis après, il dit, bon, on sait tous comment ça va se terminer, cette anecdote. Donc, on lui dit 60 000 dollars pour jouer 12 minutes. Donc il dit, bon bah j'y vais. Et sauf que
C'est au chapeau. C'est un très grand chapeau.
Il raconte qu'il arrive dans la maison de Maria Carré et que c'est une surprise. Donc déjà, il est avec son manager et la manager de Maria Carré, elle ouvre la porte de la maison et fait, lequel d'entre vous est Jim Jefferies? Et dit, ah, ça va bien se passer. Donc voilà, il rentre, il est obligé d'enlever ses chaussures, il fait le tour dans le jardin, faut pas qu'on le voit. Il arrive dans la cuisine, il attend, il dit, mais attends, mais je vais jouer, mais il y a qui? Il y a Eddie Murphy qui arrive dans la cuisine. Il dit, putain, il y a Eddie Murphy. Eddie Murphy, il fait, ah, mais toi, je te connais, je t'adore, c'est vachement bien ce que tu fais. Il fait, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bah, je vais faire un spectacle de stand-up pour les invités. Il fait, il y a aucune chance que ça fasse rigoler. Allez, ciao! Et il s'en va. Et il arrive à la soirée, et il joue, mais quand je te dis que c'est un enchaînement de fiasco et d'humiliation, c'est-à-dire que tu vis le sketch, tu fais, non mais attends, mais mec, mais c'est pas possible. Et la drôlerie de la situation, des années après, fait qu'il les encule, mais les uns après les autres. C'est-à-dire qu'il a le recul comique pour se vanner et vanner la situation, et c'est extraordinaire. Le sketch dure un quart d'heure. J'ai dit, putain, mais c'est quoi ce sketch? Et donc, modestement, je me suis dit, si je peux arriver à raconter un peu ça, dans cette forme-là, je serais content. Mais c'est Jim Jeffries, c'est 100 fois mieux que ce que je fais, parce que la situation est folle.
Tu te vends bien?
Non, mais attends, il raconte un truc génial. Il dit, alors, je vous fais la blague. Il dit, bon, je vais vous dire comment ça s'est passé. Il dit, on me dit, c'est bon, Maria Carré, vous attend. Il dit, la seule et unique différence qu'il y a entre vous et moi dans ce métier, qu'est-ce qui me rend drôle? Il dit, c'est le micro. Il dit, c'est rien d'autre, hein. Ce qui fait que je suis un mec bourré qui dit des choses intéressantes, c'est rien. C'est juste, là, je suis sur scène, j'ai un micro. Il dit, j'arrive dans le jardin, je suis pas annoncé, j'ai pas de micro, j'ai pas de chaussures. Et il dit, j'ai juste l'impression d'être un gars qui est rentré dans la propriété et qui a des trucs à dire. Et il s'assoit, et il arrive de haut, il fait, bonjour! Et le mec de Maria Carré fait, vous êtes qui? Et il dit, bah, je suis votre comique préféré! Je suis Jim Jeffries! Il fait, quoi? Et Maria Carré fait, mais tu te souviens pas, on l'avait vu une fois un sketch sur l'ordinateur et t'avais bien aimé? Il fait, mais non, je m'en souviens pas. Et là, il y a Al Pacino, Eddie Murphy et des invités.
Morgan Cadignan.
Il commence son sketch, c'est un fiasco. Leonardo DiCaprio arrive. Tout le monde fait, oh, il y a Leonardo DiCaprio! Leonardo DiCaprio, il se met à côté de lui. Tout le monde parle à Leonardo DiCaprio. Lui, il arrête son sketch, il est comme ça. Il attend. Leonardo DiCaprio, qui est un mec adorable dans la vie, il paraît. Il pointe Jim Jeffries, il fait, c'est qui lui? Robert De Niro, il fait, on sait pas. Et donc il dit, bah, je peux reprendre mon sketch? Et il a été s'asseoir au fond et il commence. Non mais, c'est que ça. Ça dure un temps infini. C'est une humiliation. Une humiliation. Et malgré ça, il en a fait un truc ultra marrant. Et moi, je trouve que c'est la meilleure définition de ce métier.
Mais justement, moi, avant de passer 3 jours à regarder que les trucs de toi, et maintenant,
oh, ma peau,
j'en
putain.
Peux plus de toi. Je pensais, pour moi, t'as un truc tellement positif, tellement joyeux tout le temps, tellement énergique, je me disais, ce mec n'a pas de problème.
Mais bien sûr que si, j'ai des problèmes.
Et puis, je t'ai entendu parler de ton enfance. Et là, me suis dit, mais d'où il est encore en vie?
Ah mon Dieu, ah, ouais, c'est dur, ouais.
Et en fait, pour moi, t'es la personne qui, dans les gens de l'entourage lointain du stand-up, Belgique, France, tout ça, a le plus transformé quelque chose de pas cool en énergie positive, tu vois. Là où il y a plein de gens qui font ça, qui transforment des trucs pas ouf en trucs marrants, mais il y a toujours le truc derrière de, tu vois, genre Kian, tu vois, genre voilà, ok, on va parler de l'enterrement de mon père, ça, moi je fais plein de blagues de dépression, et tu vois, on fait des blagues mais sur un truc quand même tragique. Toi, tu le caches toujours et tout est 100% transformé, j'ai l'impression.
Ouais, mais parce que au-delà du fait que j'ai vécu des traumas d'enfance comme plein de gens, hein, j'ai quand même un cocon bienveillant. Mes parents ont axé leur vie uniquement sur ma sœur et moi. Donc même quand mon père était alcoolique et suicidaire, qu'il disait « je vais me pendre » et qu'il partait, que moi j'allais guetter, ça c'est des trucs que j'ai vécu, hein. Tu te caches et tu vois ton père devant la corde et t'attends et tu te dis « bon bah si se jette pour se pendre, bah faut que je lui attrape les jambes en fait ». Non mais attends, mais alors ça c'est un truc, je sais pas si je vais raconter un jour parce que c'est mon père, ça c'est un truc qui est pas cool à raconter, mais je me souviens à l'école, parce qu'il y avait beaucoup de suicides dans la région où j'ai grandi, et il y avait des potes qui disaient, ouais, apparemment quand tu te pends, au moment où tu meurs t'éjacules, et moi je fais quoi, répète ce que t'as dit là. Il dit, bah apparemment quand tu te pends et que tu meurs t'as une éjaculation de sperme, et moi je dis merde, putain, donc faut, si je vais choper les pieds de mon père, faut vraiment pas qu'il m'éjacule dans la bouche parce que ça va être compliqué. Donc
oh
je,
putain,
non mais je te jure,
t'imagines,
t'as 12 ans, tu penses à ça, tu fais, ah merde, parce que moi mon père, et donc je posais des questions au gars en disant, mais c'est vrai ça? Ah ouais, apparemment c'est vrai, parce que mon père il est pompier, il m'a dit qu'il avait déjà constaté ça chez quelqu'un qui s'était pendu dans une ferme pas loin. Ok. Non mais c'est pour savoir, c'est ton père, il veut se pendre, Baptiste? Non, mais quand même, on prend des notes. Donc j'avais ça en tête. Donc oui, quand t'as vécu ça, mais au-delà de ça, qui était un truc pas cool. C'est, je peux pas en vouloir. J'ai pas un truc négatif envers mes parents parce que mon père a vécu il a une vie horrible. Mon père, il est devenu alcoolique parce que mon père, je veux pas lui en vouloir d'être alcoolique. Et mon père, son père, il battait sa mère. Mon père, il faisait un truc horrible en campagne. C'est que je me souviens, ma meuf une fois, elle lui dit, il raconte sa vie et la vie est vraiment horrible. Comparé aux parents de ma meuf, c'est l'enfer. Hein. Et ma meuf, elle était là, mais vous avez eu une vie horrible, Jackie. Il fait, bah ouais, c'était pas facile, ouais. Elle dit, mais vous avez jamais eu un animal de compagnie ou quoi? Moi, je fais, mais t'es con, pourquoi tu me demandes ça? Et mon père dit, si, j'ai eu une chatte. Je me savais pas que t'avais une chatte. Bah, si, j'avais une chatte. Ah bon? Mais elle s'appelait comment? Elle avait pas de nom, la chatte. Je dis, bah, c'est, tout est glauque là-dedans, tu m'as jamais dit que t'avais une chatte. Et t'as une chatte et tu l'as appelée la chatte. Ah, de toute façon, elle m'aimait pas trop. Je dis, mais pourquoi elle t'aimait pas? Et là, attention, tu rentres dans les. Il dit, bah, parce qu'en fait, à l'époque, on pouvait pas stériliser les chats et la chatte. Donc, quand elle avait des chatons, mon père, il nous disait, Jackie, toi et ta mère, vous allez prendre les chatons et vous les tuez. D'accord? Donc, il prenait les chatons de sa chatte, qui faisait, ce qui doit vouloir dire, non! Et il les mettait dans un sac, et il les jetait contre le mur. Il faisait ça avec sa mère. C'est fun, hein, comme dimanche. Et sa mère disait, tu sais, un jour, Jackie, je vais me flinguer. Oui, maman. Donc, sa mère s'est pendue. Son père a marché sur une mine. Quand même pas le bol, hein. Les mines ont quand même été désamorées. Il a perdu une jambe. Du coup, on a dit à mon père, t'arrêtes l'école, tu travailles et tu nourris ton père infirme qui tapait ta mère et ton frère et tes sœurs. Donc, je pense que quand mon père, il s'est assis à table et on lui a dit, te bois un petit coup? Ouais, c'est pas le refus. Ouais. Je peux pas lui en vouloir foncièrement d'avoir commencé l'alcool, en fait. Et puis après, mes parents ont eu deux enfants. Ils ont perdu deux enfants à la naissance, des enfants trisomiques, à cause de mon père, parce qu'il y avait eu de l'inceste dans sa famille. Donc mon père, on lui dit, t'es alcoolique, tu fais que des enfants trisomiques, tu vas arrêter de boire? Non, je vais continuer un peu. Et moi, je suis né normal. Donc mes parents étaient à fond, ils étaient trop contents de m'avoir. Moi c'était ah ben il est normal. Ouais. Donc mes parents moi.
C'est pas grave s'il crie beaucoup du coup.
Ben, c'est pas grave. Ils m'ont surprotégé, ils m'ont adoré et ils m'ont coué, mais mon père a gardé ses névroses. Donc
Mais c'était pas un truc genre une énorme pression pour toi?
Non, pourquoi?
Bah ben, parce que si tes parents ils t'ont voulu si fort, il y a un truc de tu peux pas faire de la merde, tu vois.
Oui, non, mais alors, c'est pour ça que mes parents ont toujours été. Mais tu vois, pareil, comme quand je leur ai pas dit que je faisais des spectacles comiques, eux, ils m'ont dit t'arrêtes tes études, mais il faut que tu trouves un travail. Donc, j'ai travaillé en tant qu'animateur et j'avais mon travail à côté. Et je leur ai dit après, bon, le mercredi, une fois par semaine, je joue à un spectacle. On dit, mais comment ça, tu fais un spectacle? Je dis, bah, j'ai écrit un spectacle avec des blagues. Et ils sont venus me voir au Bourron, là, avec Bérangère Krief à la caisse. Et qui faisait ma régie. Et bon, ils étaient dans un état de enfin, c'est horrible, enfin, de voir tes parents, tu vois, ton fils jouer et tout. Et c'était ma mère, elle a baissé la tête tout le long, elle mettait des coups à mon père. Pourquoi ça rigole pas? Bah, il boit de l'eau. Et ma mère, elle disait, trouve des blagues quand tu bois de l'eau. Je fais, ok, d'accord. Mais après, ça a été que bienveillant. Donc, quand mes parents m'ont dit, ah, bah, c'est cool, t'as l'air content, continue de payer ton loyer et sois content. J'avais pas plus la pression que ça. C'est pour ça que j'ai transformé ça en positif. J'avais pas envie de tomber dans la noirceur, mais j'ai mon côté dark aussi, mais je le mets pas sur scène. Ouais, non, ça m'intéresse pas. J'ai envie de m'amuser sur scène.
Tu le mets où?
Je sais pas. Je peux avoir des phases down, mais les phases down, j'écoute. Alors, par contre, quand j'ai des phases down, j'écoute des chansons tristes, parce que moi, vraiment, quand je suis en dépression, je préfère mettre l'ambiance qui va avec. Moi, si je me pends, je vais faire ça bien. Je vais mettre une belle corde avec des fleurs autour, avec Creep et Karma Police en boucle. Mais quand je suis pas bien, j'écoute des chansons pas bien et je dis ok, bon, on est pas bien, bon, on va aller au bout du pas bien. On va aller au bout du pas bien, puis tu vas voir jusqu'où ça va, et puis à un moment donné, ça va s'arrêter. Je suis pas genre à dire oh, ça va pas, oh, allez, la vie est courte. Non, quand ça va pas, ça va pas. Je râle, je bougonne, je suis chiant dans la vie, c'est pour ça que ma meuf, elle est courageuse. Hein. Je râle à la maison, mais je bougonne. Et mais je te dis, j'ai pas trop la place après parce que t'as les enfants et puis t'as des moments où tu relâches le truc en faisant du sport et puis en Mais j'ai encore des phases tout seul dans mon canapé où je joue à The Last of Us, aux jeux vidéo, j'aime bien. Ça me rappelle mes moments où j'étais ado et puceau. Sauf que là, je suis adulte et un peu torturé et triste, je joue aux jeux vidéo, ça va mieux, et puis après, la vie continue.
Et quand t'es en bad, comment tu fais pour jouer un truc où t'as besoin d'autant d'énergie et de présence sur scène ? Et
justement, c'est ça, j'ai jamais eu de problème à jouer, même en étant très 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 down. Même en étant extrêmement down. Parce qu'on s'est séparés deux fois avec ma nana, la première fois à cause de mon infidélité, et la deuxième fois, elle m'a largué, elle m'a dit en fait, je crois que je t'aime plus. T'es sûr ? Ouais. Elle est partie quasi un an. Donc l'Olympia, quand je fais ma capta de l'Olympia, je suis au fond du trou, quoi. Mais je suis vraiment au fond.
La capta d'origine ?
D'origine, je suis au fond du trou. Mais au fond du trou, mais je suis vraiment en loge. Ouais, je suis éteint, quoi. Mais il y a le truc qui fait que tu dois y aller. Et t'y vas, et ça fait du bien. Tu penses à rien d'autre. Et puis c'est à force de lire des interviews. J'ai lu des trucs. Roland Giraud, c'est le mec qui dit dans Les Bronzés font du ski, je ne vous mets pas mon poing dans la gueule, tu vois, avec Thierry Lhermitte, là.
J'ai pas trop bon, vu alors, ça.
C'est un acteur qui jouait tous les soirs sur scène dans une pièce de théâtre, et il apprend, sa fille a disparu, et il retrouve le corps de sa fille dans un puits, qui a été assassiné par son beau-frère, je crois.
Dans la réalité, ça.
Dans la réalité. Et il continuait de jouer le soir. Tu fais, mec, waouh, c'est un délire, quoi. Franck Dubosc, avant de jouer, son papa était très malade, et son équipe avait dit, on le dit pas à Franck, que son père est mort, et il va monter sur scène, et il voit un régisseur qui détourne la tête comme ça, il fait, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, ton papa est décédé. Et il a joué quand même. Il a joué tout le spectacle. Tout le spectacle. Il l'a joué super bien. Il y a un moment où il imitait son père, il a dit, la voix, elle est un peu partie, mais il a joué. Donc tu lis ça, tu fais, putain, je te dis pas que je serais capable de le faire ou quoi, mais je pense qu'il y a un truc irrationnel dans la comédie qui fait que quand on est sur scène, on a ce truc dans l'air qui circule qui fait que on y va. On y va et on joue et tu penses à rien d'autre et ça te fait du bien aussi. Et je trouve ça réconfortant de se dire que quelque part, la vie continue malgré tous les problèmes que tu peux avoir. Moi, j'avais ma meuf en loge à l'Olympia. Tout le monde venait voir mon manager en disant mais ils sont revenus ensemble ou quoi, il dit bah non, et ma meuf était là, j'avais envie de l'embrasser et tout, et puis bah non, elle était là, Dieu non, mais je sais pas si on se remettra ensemble ou pas, tu vois, et malgré ça tu fais l'Olympia et bah t'as tout le monde dans la salle qui est là, ils ont payé leur place, ça fait 2 ans ils ont réservé, et puis t'as envie de niquer l'Olympia, t'as envie de tout cartonner. J'avais mon père avec son badge qui était trop fier, je vais pas niquer la soirée, c'est pas grave, c'était vraiment pas agréable. Mais je les ai traversés. Et malgré ça. Et c'est possible. Je dirais que c'est possible.
C'est quoi le truc dont t'es le plus fier ?
Ah, mes filles. Dans ma carrière d'artiste ? Pardon, tu vois, mes filles, ça s'est senti très bien. Le truc dont je suis le plus fier dans ma carrière artistique ?
Les deux.
Les deux ? Non, en premier, c'est mes filles. C'est trop bien. C'est pareil. Avoir des enfants... Surtout des filles, moi je voulais que des filles, donc je suis trop content. Mais c'est un truc assez, c'est très réconfortant d'être avec sa fille et de se dire, c'est génial que quoi qu'il arrive, je serai toujours en amour avec cette personne. Peu importe ce qui se passe, elle peut me trahir, il peut se passer n'importe quoi. L'amour que j'ai pour elle, il est éternel. Ce que tu n'as pas avec ton conjoint ou ta conjointe, tu te dis, bah, je peux l'aimer, elle peut me quitter, elle peut, voilà. Ta fille. Donc, tu regardes ce petit bout comme ça et tu te dis, toute la vie, je sais que je vais l'aimer. Et ça, c'est un CDI de bonheur. Pardon. Non. Ah putain, mets-moi Coldplay. Non mais ça c'est trop bien. Et après artistiquement, je sais pas. C'est mon père, de voir mon père content à l'Olympia. Mon père avec mon badge. Oh putain, vache.
Je suis grand, hein, puis je m'emmerde.
Et c'est du placo.
Non, mais en plus, ce qui était mignon, c'est que mon père, on a fini l'Olympia, et j'étais en train d'écrire un nouveau spectacle. Il me dit, tu vas y retourner à l'Olympia? Je dis, je sais pas, mais ils veulent bien que tu y retournes. J'ai dit, comment ça, ils veulent bien que j'y retourne? Mon père, il croyait que c'était Poudlard. Et je dis, mais papa, c'est pas une fac, hein. Si je veux aller à l'Olympia, je loue l'Olympia un soir et je l'ai. Hein. Oh bon? Il dit, mais tu vas y retourner ou pas? Et c'était pas forcément prévu. Et j'ai dit à ma prod, on peut retourner à l'Olympia ou pas? Ils m'ont dit, ah, mais on aurait voulu faire peut-être 2-3 zéniths à la place et tout. Et j'ai dit, ah, j'aimerais bien. Mon père, il aimerait bien que je retourne à l'Olympia. Ils m'ont dit, bah, allez. Hein. Donc je remets 5 Olympias en avril, là. Non, mais je le fais vraiment.
Le caprice!
Non, mais c'est mignon. Tu vois, la famille, ils sont trop contents. C'est cool. C'est cool. Ouais, c'est mignon. Tu vois, il y a eu des trucs pas cool, mais genre, j'en veux absolument pas à mon père ou à ma mère. Au contraire, ils ont été, je te dis, tout le positif qui sort maintenant, c'était, je pense, c'était des phases dans notre vie ou dans nos vies respectives où on était tous un peu malheureux et que ça rejaillisse maintenant sur scène. Tout le monde est content, c'est cool, tu vois. Mais c'est pas dans un but carriériste. Je sais que c'est ça qui est bien avec mon entourage et ma famille, c'est qu'on vient d'un milieu très modeste et que je sais qu'ils sont fiers pour le côté fiers du fiston. On n'est pas fier parce qu'il gagne bien sa vie ou des trucs comme ça. C'est pas showbiz. C'est parce qu'il est content de. Il est content de voir qu'on fait l'Olympia, tu vois.
Tu te sens comment quand tu termines la tournée d'un spectacle ?
Je suis très triste. Je suis très triste parce que je me rends compte que plus les années passent, moins on joue longtemps nos spectacles. Avant un spectacle, tu pouvais jouer 5, 6, 7 ans. Là, c'est 2 ans, 3 ans max. Donc c'est pour ça que je me lâche jamais de jouer le spectacle, parce que je sais que c'est des chances qu'on a de jouer régulièrement. Mais quand il s'arrête, oui, je me dis waouh, bah faut repartir à zéro et essayer de pas décevoir les futurs spectateurs. Mais là, si Flaubert veut bien continuer à écrire avec moi, je sais que je vais être content de me retrouver avec lui le matin, parce que j'ai adoré les séances d'écriture qu'on a faites. Ça a duré, on l'a écrit en 1 mois et demi le spectacle. Ça a été très vite, ouais. Parce que c'est une machine de guerre et qu'on s'est trop bien entendu. Mais c'est trop bien de se lever le matin et que la seule mission que t'as, c'est de faire marrer ton pote en face pour faire rigoler d'autres gens après. C'était trop. Enfin, franchement, j'ai adoré écrire avec lui et humainement, c'est un mec que j'aime foncièrement en plus. Et moi, j'ai besoin d'aimer les gens humainement, foncièrement pour faire ce métier. Rapport aux déceptions que j'ai pu avoir avant, on va pas citer de nom. Mais je sais que je vais être triste, mais content de me relancer dans un autre truc.
Ok.
Mais il y a pas avant, il y a pas une avant, il y avait pas un jour où en jouant le premier spectacle, je pensais pas au deuxième, et il y a pas un jour où au deuxième, je pensais pas au troisième. Là, moins avec les enfants, mais là, ça y est, ça revient. Je commence à renoter des trucs pour après.
Et j'ai lu que à la fin de, je pense que c'était du deuxième. T'avais fait un truc un peu mignon, genre aller jouer dans la première salle où tu as joué et tout, et à la fin il y a un mec, genre t'avais fait un truc un peu émouvant, puis à la fin il y a un mec qui t'a juste demandé genre et c'est quand le prochain?
Ouais.
Et que ça t'avait cassé les couilles.
Ouais, ça m'avait cassé les couilles parce que, ben en fait il a raison, parce que moi je m'étais juste mis dans un truc un peu égo trip de j'ai rejoué la dernière de mon spectacle dans la salle où j'avais joué la première, mais genre en fait ils disaient oui bon ben oui.
Ouais, en fait c'est ce que tu disais tantôt, de toi t'es dans leur vie une soirée, mais
exactement.
T'es dans la tienne tout le temps.
Ouais. Ouais, très bien. Mais aussi, la façon de consommer les spectacles a changé aussi. C'est pour ça que je pense que je suis excité à l'idée de faire d'autres spectacles, mais j'ai moins de pression parce que je vois que les gens qui sont là, tu vois, il y a tellement d'outils à disposition pour consommer des spectacles d'humour. Les gens, ils ont un choix. Enfin, c'est vertigineux, tous les trucs qu'on peut regarder. Enfin, t'as même pas assez d'une vie pour tout regarder. Enfin, mais moi, des comiques, j'en connais 7-8 que je regarde régulièrement. Les autres, je regarde même pas, tu vois. Parce que ça me prend trop de temps de regarder ceux que j'adore. Moi, je les regarde jusqu'à épuisement. Donc, oui, on est. Faut se détendre. On livre un truc aux gens, ils le prennent. Et après, ils rentrent chez eux, ils vivent leur vie avec leurs problèmes, qui sont nos problèmes aussi. Et voilà. Pour ça aussi, faut vachement se détendre là-dessus. Faut y aller à la cool. Faut pas se foutre de la gueule des gens, mais faut être vachement plus tranquille sur ce qu'on propose au public. Faut être en accord avec soi-même. Faut le faire pour les bonnes raisons. Si tu le fais pour les bonnes raisons, je pense que le public le sent aussi. Je pense.
C'est quoi les bonnes raisons ?
si t'as vraiment envie de, si t'as envie de raconter des choses et d'en faire un spectacle et de si t'as l'envie profonde de trouver de la drôlerie dans ce que tu vas raconter ou dans tes tortures et que tu le fais pour faire du bien aux gens et pas que toi, les gens vont le sentir. Si c'est que un ego trip de ah je parle de ça et moi ça me fait du bien et peut-être que ça fera du bien aux gens, je pense que tu peux en mettre de côté. Mais encore une fois, c'est pas forcément vrai parce que moi tu vois le deuxième spectacle, je parlais vachement de la timidité, je me disais putain mais ça va, je parle quand même de trucs très perso et tout, et en fait ça parlait à plein de gens parce que tes travers résonnent dans chacun, enfin chez chacun à différents moments de leur vie. Mais les bonnes raisons, je pense que c'est la vraie envie de raconter des choses et d'essayer d'en faire rire de façon noire ou pas, tu vois. Il faut que le rire soit moteur de tout ce que tu fais. Ou que la noirceur se transforme en truc positif. Il faut qu'il y ait un truc bienveillant derrière. Si tu fais des spectacles pour gagner ta vie, ou te faire repérer pour faire LOL qui ressort, ou juste parce que tu supportes pas qu'un tel ait vendu plus de billets, donc tu commences à jouer des coudes et tout, là t'es une chiasse. Là t'as perdu les gens. Je pense que là t'y vas pour les mauvaises raisons. Et c'est ce que je disais en interview avant. Faut penser au soir où ça va pas justement. Si t'as pas la vraie passion et que tu vas jouer en banlieue d'Angers devant 400 personnes mi-novembre dans une salle de 800, on dit bah c'est à moitié de salle. Hein. Ah ouais. Bah vas-y c'est à toi. Si là tu le fais pas pour les bonnes raisons, bah je peux te dire que t'as intérêt à te foutre un bon suppôt dans le fion parce que va falloir aller les chercher. Hein. Alors que si tu vas et que t'es content d'y aller, tu dis putain, j'ai envie de...
Ils sont 400!
J'y crois en cette blague. Non, mais c'est pas, ils sont 400 parce que ça casse les couilles. Des fois, t'as des salles moins remplies, tu dis putain, c'est chiant.
Ouais, mais si tu remets en perspective, 400 c'est déjà énorme en vrai.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est pas le nombre qui fait que, mais si quand tu racontes des trucs, moi je sais, là, il y a un passage qui marche moins bien à Paris qu'en tournée, mais je suis content de le jouer. Et le soir, c'est devenu un défi. C'est ce soir-là, putain, ça va, j'adore jouer ce passage, je vais vous montrer, j'aime bien. Et je m'en fous, je vais aller chercher un par un. Le passage, j'aurais pu l'enlever, mais je me bats chaque soir parce que j'y crois. Et si t'as pas la passion de ce truc-là, si tu fais juste ça pour être dans le prochain clapiche ou être repéré pour faire je sais pas quoi, bah, tu le jettes, le sketch. Tu dis bon, tant pis.
Comment tu trouves le juste milieu entre évoluer au fil des spectacles et, enfin, tu vois, garder ce que les gens aiment chez toi, mais tout en ne stagnant pas?
Oh putain, ça c'est très dur. C'est une très bonne question. C'est un gros débat que j'ai eu avec mon régisseur Alex, qui me suit depuis des années. Il me dit, je trouve que t'es plus mou au début. Et je dis oui, mais je le fais exprès. D'être dans un, je rentre sans musique, sans rien. C'est une volonté parce que j'ai plus envie de faire d'aller chercher à fond. Même si je le fais après, j'aime bien. Et c'est une proposition de Flaubert qui m'avait dit ça en écrivant le spectacle. Il m'a dit, viens, on démarre le spectacle et rappelle aux gens que t'es drôle. Mais je t'emmerde, espèce de petit con. Il me dit, non, mais il me dit, fais des blagues. Fais des blagues. Il me dit, mais des vraies blagues. Des blagues qui peuvent toucher tout le monde. Parce qu'il faut penser aussi à la nana qui dit, ah, mais moi, je l'adore. Viens, on va le voir. J'ai pris deux places. Oh, oh.
Mais il y en a toujours une des deux qui s'en fout.
Bien sûr, hein, toujours un des deux que t'as ramené. Mm. Donc, faut penser à celui-là aussi. Ou à celle-là. Donc, faut... Donc ça paraît dans l'évolution de ce que je voulais raconter. Comment je rentre au début et comment je sors à la fin. Ça c'était le truc du 3, du troisième spectacle. Et je suis d'un point de vue personnel, on est avec Flaubert, on est contente de ça. Après faut voir sur quoi je vais aller derrière. Mais je pense aussi qu'il y a des gens qui m'ont dit ah moi je préférais quand tu partais plus en couille ou les gens préfèrent ah ça je préfère ça, vous êtes plus posé. Chacun il trouve son truc, donc en fait je pense que le plus important c'est d'être en accord déjà avec ce que tu voulais raconter, de d'être content de tes blagues. Faut être content de ses blagues déjà, ça c'est une bonne victoire. Après les gens décident, hein. C'est les gens qui décident, hein. Pour ça que moi j'ai pas on me dit ah ouais, Paul Mirabel il a fait 18 millions de vues, vous êtes pas jaloux? Non. C'est génial pour lui, trop bien. Et Paul, il a bossé de ouf, Paul Mirabel. Mmh. Paul Mirabel, quand moi j'allais faire un plateau, il en faisait 5 dans la même soirée. Ouais, salut, bon, bah, je te laisse, j'y vais. Avec sa tête de serial killer dans
Elephant. Avec sa tête, là.
Mais il bossait comme un porc, Paul. Ouais. Et c'était trop bien. Et évidemment que le résultat, il est là, parce qu'il bossait comme. C'est le mec qui a le plus bossé dans les plateaux ces dernières années. Et, Et ben non, il a travaillé, il a son mérite, et le public a choisi d'aller le voir, et c'est génial. C'est pour ça que l'humour, faut pas trop se prendre la tête, le public choisit, et c'est pas parce qu'ils vont voir tel comique qu'ils iront pas voir l'un ou l'autre. Et c'est pareil comme dans la guéguerre des comédie clubs, c'est pas parce que tel comédie club a ouvert là que les gens vont plus aller là. Les gens choisissent, c'est aux gens de choisir. C'est pour ça qu'il y a un truc très... Détendez-vous, les gars. C'est eux qui décident. À toi de faire en sorte que t'aies le moins de regrets possible. Donc, être en accord avec ces blagues, bien travailler, sortir de scène et dire « Ok, j'ai tout donné », pour que eux après, disent « Bah, c'était bien, mais... c'était bien. Ok ? Bah, pas grave. Pourquoi c'est que bien ? Est-ce que ça peut être mieux ? Moi, j'aime bien ce que j'ai raconté. Bah, ok. Et puis, t'as des gens qui vont adorer, d'autres qui vont pas aimer. Qu'est-ce que tu veux faire ? T'as rien à faire. Il fait 37 degrés au mois de novembre. Il y a d'autres problèmes aussi, tu vois. Tu vois, il y a d'autres trucs, c'est pas grave. On sait que des blagues, hein. On est que des blagues une soirée. Il faut vraiment se détendre le fion là-dessus. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment être tranquille et mille dans ce métier. Et qu'il faut pouvoir dire des fois à un tel, je t'emmerde, et toi, je t'aime bien, et voilà. Pour ça que je l'ai fait là, parce que comme on est dans un truc bienveillant et que je me sens bien, je t'ai raconté des trucs qui m'ont fait mal et qui m'ont fait du bien aussi et qui me font du bien. Tu vois ?
Merci Baptiste.
Ben, merci Fanny Ruitt.
J'espère que l'épisode vous a plu. Tous les liens pour suivre Baptiste, regarder ses sketchs ou aller le voir sur scène sont dans la description. Il sera notamment à l'Olympia de Paris du 11 au 15 avril et en tournée un peu partout en France et en Belgique. Prochain Gens qui doutent dans 2 semaines. D'ici là, vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, des étoiles, tout ça. Et me suivre moi sur les réseaux, @FannyRuet, pour être tenu au courant de la suite. Cet épisode a été enregistré en public au Point Éphémère par Charles de Cilia avec l'aide de Gauthier du Point F. Le mix et le générique sont quant à eux signés Maxime Moitieu. Merci évidemment à tous les gens présents dans la salle, ainsi qu'à Julie et toute l'équipe du Point Éphémère pour ce très beau moment. Des bisous.